Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le mouvement des Gilets jaunes contre la hausse des taxes sur les carburants et la vie chère dure maintenant depuis presque 10 jours, un peu plus de 10 jours en France. C'est un mouvement inattendu dont les revendications sont assez variables, un mouvement difficile à cerner. Donc les partis politiques semblent intéressés, mais les syndicats sont assez circonspects, voire méfiants, d'autant qu'il n'y a pas de hiérarchie, de structure traditionnelle. Et c'est même revendiqué comme le fait de ne pas se plier aux règles habituelles de la manifestation. C'est un mouvement qui se veut spontané, organisé sur les réseaux sociaux, presque autogéré. L'autogestion, échec ou salut du mouvement social, c'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Franck Georgi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, auteur de L'autogestion en chantier, Les gauches françaises et le modèle yougoslave. C'est aux éditions Arbre Bleu. Et Jean-François Amadieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, professeur agrégé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le mot autogestion est assez marqué historiquement, politiquement, cela renvoie à des choses assez précises, mais en même temps variées, et l'utiliser à propos des Gilets jaunes, c'est plutôt une commodité de langage, hein, je l'admets. Néanmoins, en quoi ce mouvement peut être considéré comme autogéré? En quoi est-ce qu'il diffère également de l'autogestion, Jean-François Amadieu?
Oui, il y a quand même une différence, c'est que souvent, et là je parle sous le contrôle d'un spécialiste de l'autogestion, mais pour ce qui me concerne, je réserverais plutôt le terme dans l'histoire du mouvement ouvrier, par exemple, à la manière de s'approprier l'outil de production, à le gérer, et c'est plutôt en ce sens qu'on l'emploie et qu'en France, il a été en général déployé, en tous les cas chez nous. On peut penser historiquement, je ne sais pas, au LIP ou à un certain nombre d'épisodes où c'était ce qu'on faisait. Là, bien entendu, vous comprenez du coup qu'on est en présence avec les Gilets jaunes de quelque chose de différent, car ils ne gèrent pas un outil de production. Il s'agit simplement d'une manière d'exercer la mobilisation, l'action collective, c'est un fonctionnement politique, si vous voulez. Et alors là, en revanche, ces actions, j'hésite à les appeler autogérées, mais disons ces formes de démocratie plus directe, partant de la base, avec des règles de fonctionnement différentes, c'est vrai que je pense que ça faudrait peut-être employer un autre vocabulaire pour ça.
Alors Franck Georgi, quel vocabulaire, selon vous, il faudrait employé pour bien le différencier de l'autogestion à la LIP, comme ça a été dit, c'est par ça. Exemple.
Oui, bon, le terme d'autogestion, c'est vrai qu'il a été utilisé à toutes les sauces pendant une certaine période, notamment dans les années 70. C'est un terme relativement récent, finalement. Il apparaît dans la langue française au début des années 50. Mais effectivement, c'est à partir de 1968 que l'on parle d'autogestion et que de manière dans l'espace public, hein, et que ce terme finit par envahir cet espace public, au moins à gauche, désignant à la fois, comme originellement en Yougoslavie, la gestion des entreprises par les travailleurs eux-mêmes ou par leurs représentants élus, mais aussi une vision de la société où chacun serait responsable de ses propres affaires, pas seulement dans le domaine de la production, mais de manière générale, on disait l'autogestion de l'économie par les travailleurs et l'autogestion de la vie politique par les citoyens eux-mêmes. Donc on parlait d'autogestion municipale, on parlait d'autogestion de soi, hein, pour revenir à l'origine même du terme, le self-management, management du self, de soi-même. Donc c'est un terme qui est devenu une espèce de projet politique très très large, porté par une partie de la gauche, une partie de plus en plus importante de la gauche, jusqu'au Parti communiste lui-même à la fin des années 70, alors qu'au départ, il était très farouchement opposé à ce type de fonctionnement. Mais par rapport à la question que vous posiez initialement, on parlait dans les années 70 d'autogestion des luttes, pour dire que l'autogestion n'est pas simplement le point d'aboutissement du combat, l'entreprise entreprise gérée par les travailleurs, mais aussi la manière de lutter. Elle était, disait-on, à la fois la voie et l'issue, le moyen et la fin, et que les deux étaient inséparables, même si on utilisait d'autres termes pour parler, par exemple, des formes d'auto-organisation du mouvement social.
Alors, ce n'est pas le premier mouvement social, alors je vais dire auto-organisé, on va dire, sans leader mis en avant, du moins au début. À quoi est-ce qu'on peut le comparer? À quoi ça vous fait penser, historiquement, par exemple, à vous, Jean-François Madieu? C'est difficile, hein, comme question.
Non, mais de toute façon, il est très clairement, mais pour une autre raison, il n'est pas comparable à ce qu'on a connu par le passé, pour toute une série de raisons. Moi, je ne vois pas d'équivalent. Alors, c'est toujours, on peut toujours trouver de vagues ressemblances, et encore, c'est même pas évident. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement qu'il part d'initiatives citoyennes à la base. Ça, on pourrait effectivement le trouver plus facilement. On pourrait aussi faire référence à des mouvements de coordination. Donc ça peut exister. La particularité, c'est, je le rappelle quand même, que c'est la première fois qu'on a pu observer si les réseaux sociaux, c'est-à-dire Internet, etc., étaient en mesure de mettre des gens dans la rue et de déboucher sur quelque chose de concret. Ce qui était quand même pas si évident que ça, même si on a beaucoup discuté la question des printemps arabes. Donc on peut dire qu'il y avait déjà un précédent. Mais au fond, ça, c'était la particularité. L'absence de leader, quand même. Parce que quand vous prenez, si on prend des références à beaucoup d'autres mouvements qui sont partis... évidemment, la 68 est totalement différent, mais il faut bien voir que dans tous les cas qu'on peut observer, il y a toujours, tout à l'heure je parlais de LIP, etc., mais peu importe, quand vous prenez des mouvements qui fonctionnent en France, qui ont existé, partant du terrain, en réalité, il y a des militants derrière, d'organisations politiques, en règle générale, c'est ce qu'on observe. Là, ils sont quand même très, objectivement, très peu à la manœuvre au départ. Ça part bien de vidéos, de pétitions, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile, je trouve, de trouver des équivalents. Certains disent, ça pourrait faire penser à ce qui s'est passé avec les fourches en Italie. Il y a peut-être, certainement pas pour moi, des mouvements comme Nuit Debout, qui pour moi sont pas du même type. Il y a toujours une présence politique importante. Donc là, il y a quand même, si vous voulez, des particularités de ce mouvement qui, pour moi, fait quelque chose de très nouveau. J'ajoute que sociologiquement, contrairement à tout ce qu'on a vu par le passé, alors c'est extrêmement transverse.
C'est assez disparate.
Mais pas seulement politiquement, sociologiquement, ce qui est assez incroyable. Mmh. Donc évidemment, c'est très différent de beaucoup de mouvements sociaux où, en fait, on a affaire à des corporations ou des travailleurs ou un groupe social quand même plus ciblé. Alors ça peut partir de la base. Je faisais référence à ce qui s'est passé, par exemple, avec les coordinations à la fin des années 80, en France, où c'était les mobilisations sociales, mais qui étaient partant de groupes déjà qui existaient, les infirmières, etc.
Franck Georgi, vous êtes d'accord? C'est un ovni, ce mouvement?
Oui, en tout cas, c'est difficilement saisissable.
C'est évident. Il n'y a rien de comparable.
C'est difficile. C'est difficile. Le fait que ce soit un mouvement transclasse, comme on disait dans les années 70, ça, c'est une évidence, mais dans les révoltes antifiscales, on trouve également ce type de mouvement. Je pense aux bonnets rouges, par exemple, mais les bonnets rouges étaient portés davantage par des organisations patronales.
Et politiques locales.
Et politiques locales. Et
puis, même force ouvrière, à un moment.
Absolument. Force ouvrière, et puis il y a cette implantation régionale. Là, on a un mouvement extrêmement diffus, d'envergure nationale, mais en même temps extraordinairement dispersé. Donc il est à la fois insaisissable par le fait qu'il passe par ces réseaux sociaux ultra décentralisés, mais aussi parce que les blocages sont un peu partout. C'est pas un mouvement de masse au sens où il y aurait concentration, mais un mouvement extrêmement décentralisé.
Des mouvements dits spontanés qui arrivent comme ça, est-ce qu'ils disparaissent comme ils sont venus, ils finissent par s'organiser comme les autres, ils sont récupérés par les mouvements syndicaux ou politiques? Ça aussi, c'est très variable, Jean-François Madieu, comme destin, si je peux dire.
Oui, alors si on fait le parallèle avec les printemps arabes, qui était une mobilisation quand même, qui partait beaucoup avec peu de relais quand même, politique, souvent beaucoup de partant du terrain avec
forcément
les réseaux.
Forcément, absence d'opposition au départ. Donc,
exactement, voilà. Donc c'était compliqué. Oui, mais très rapidement, on s'aperçoit que finalement, les leaders qui étaient apparus ont disparu. disparu, où ça n'a pas, ça a été récupéré. Il y a eu des formations politiques et finalement, que ce soit en Égypte, en Tunisie, on voit que les, ce qui s'est passé. Souvent, on dit les bonnets rouges, c'est un argument que prenait la CGT, d'ailleurs, ces temps-ci, de dire, bah oui, mais les bonnets rouges, ça n'a débouché sur rien, in fine. Mais c'était pas forcément l'objectif non plus, il faut le remarquer. Après, c'est vrai que des exemples de structuration, si on fait, donc je prenais un exemple en Italie, ou Nuit Debout, en fait, on peut dire que, en règle générale, des formations politiques arrivent. Alors, en 68, par exemple, il y avait déjà, dès le début, des organisations étudiantes. Et puis après, les syndicats sont venus, les partis, etc. Mais l'extrême gauche était présente très rapidement. En réalité, c'est vrai qu'on le voit bien dans ce mouvement. L'absence de leaders politiques, et dès le départ d'incarnation du mouvement, surtout avec ces dimensions, fait qu'après, évidemment, les formations politiques arrivent, des leaders apparaissent. Et donc, c'est en général comme ça que ça se passe, hein. Il n'y a pas de...
Un mouvement de ce type, s'il y a un type, hein, est-ce qu'il a plus de chances de réussir ou d'échouer pour ce qui est de faire aboutir ses revendications, selon vous, Franck Georgi?
C'est pas réussir ou échouer. Ce qui est clair, c'est que par les organisations structurées préexistantes, vous aviez évoqué, Jean-François Madieu, les coordinations des années 80, 86, 88. Le discours syndical par rapport à ces formes d'organisation spontanée, ou jouer un rôle véritable de catalyseur des militants, hein, militants politiques et syndicaux. Mais malgré tout, c'était un mouvement qui partait de la base et qui s'est construit sur l'absence, la quasi-absence des syndicats. On était vraiment au cœur de la crise du syndicalisme. Ici, on a aussi un mouvement qui se construit sur une crise multiforme des corps intermédiaires, de la représentation, et qui met en cause de manière assez radicale tous les représentants en disant « ils ne nous représentent pas ». Alors la question, c'est de savoir, un mouvement de ce type-là, qui, parce qu'il est une espèce d'antithèse du macronisme, ni droite ni gauche, ou et droite et gauche, mais qui finalement joue sur un registre relativement proche et voit s'adjoindre à la fois proche et contraire, puis il voit s'adjoindre ou se arriver vers lui pour le soutenir, des gens venus de droite, de gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de véritables apolitiques.
L'utilisation des réseaux sociaux, j'y reviens, vous parliez d'antithèse au macronisme, c'est le mouvement social qui s'adapte à la Startup Nation, c'est l'autre face d'une même médaille, si on peut dire ça comme ça, ou...
Peut-être pas de la Startup Nation, mais
de l'anti-Startup Nation,
mais avec les mêmes outils. De ces outils numériques dans lesquels on est tous finalement.
Il y a eu d'ailleurs, je voyais une image absolument saisissante. Vous savez qu'un des deux représentants, c'est Drouet, a filmé avec son smartphone la réunion et les échanges qui ont eu lieu avec François de Rugy, ce qui est une scène surréaliste, parce que quand même, c'est pas du tout la pratique habituelle, bien entendu, de ce type de réunion, ni de la négociation, ni de la concertation.
Non, en général, on fait un tour d'image au début avec les journalistes, et puis après, on ferme les portes. C'est comme ça que ça se passe.
Donc là, c'est vrai que c'est assez frappant. C'est une façon. Je voudrais quand même, il y a quand même une différence entre la Macronie, ni droite ni gauche, et les Gilets jaunes. C'est que du point de vue de la sociologique et surtout de la transversalité politique, c'est beaucoup plus étendu, les Gilets jaunes. Vous vous rendez compte qu'on va, ça va quand même de la France insoumise à l'extrême droite, tout simplement. Et samedi, fait sans précédent, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite dans les barricades, ce qui est incroyable. Donc, si vous avez quand même là quelque chose qui, pour moi, ne s'observe pas, ni les samedis quand ça chauffe aux Champs-Élysées, ni... Et la base électorale est extrêmement large. Donc ça, c'est quand même... Pour moi, des fois, je me demande si Internet mis à part, il faudrait pas remonter beaucoup plus loin, c'est-à-dire à la période pré-révolutionnaire, c'est-à-dire à tout ce qui s'est passé depuis les Jacqueries jusqu'à la Révolution française.
Oui, Franck Georgi, l'avis de l'historien là-dessus.
Pour les Jacqueries, oui, c'est souvent la référence que l'on donne, hein, le caractère spontané,
anti-fiscal.
Anti-fiscal, contre les gros.
Assez régional, rural.
Mais là, c'est pas seulement rural, hein, si on observe, c'est quand même même les petites villes, les villes moyennes, ça a une implantation de ce type-là également. Mais ce qui est, je crois, frappant, c'est que on a cette auto-organisation dont on parlait du mouvement, mais on a aussi de manière extrêmement confuse des revendications qui sont parfois contradictoires et aussi une sorte de revendication de démocratie directe lorsqu'on voit les fameux thèmes qui sont mis en les revendications qui sont portées par ses représentants. On a une assemblée citoyenne, on a le référendum d'initiative populaire, etc., etc.
Merci beaucoup, Franck Georgi. Merci à vous également, Jean-François Madieu, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Déborah Lepage, Simon Carteret, Hélène Avril. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, c'est un peu plus court parce que tout de suite, on a le foot et la Ligue des Champions. Bonjour chez vous.